Dans la presqu'île du Cotentin, à proximité du Cap de la Hague, au lieu dit le Caban, s'étend une vaste zone rocheuse qui entaille par endroits le rivage, individualisant ainsi de nombreux bras de mer. La marée descendante découvre quelques mares mi-sableuses, mi-pierreuses, où l'eau séjourne en permanence. On trouve là des algues, telles Fucus ceratus, Codium tomatosum, Fucus vesiculosus et Laminaria saccharina. Sous les pierres qui émergent, çà et là, se rencontre Asterina gibbosa. Cet astéride est hermaphrodite protérandrique. Sa couleur oscille du marron-brun au vert-de-gris et les plus grands individus ont un diamètre qui n'excède que rarement 5 à 6 cm. Ludwig, auteur de la fin du 19e siècle, pense qu'au moment de la fécondation, il existe un rapprochement sexuel entre Asterina en phase mâle et Asterina en phase femelle. On a pu observer des rassemblements d'Asterina qui ont été suivis de pontes. Toutefois, on ne peut pas écarter l'hypothèse de l'autofécondation, que l'on a d'ailleurs pu réaliser expérimentalement avec de la 1-méthyladénine. Les pontes d'Asterina gibbosa se déroulent d'avril à mai-juin, suivant les localités. L'œuf, jaune-orangé, mesure environ 1 demi-millimètre de diamètre. Après la ponte, l'animal abandonne ses œufs qui forment un paquet. Observons au microscope, à contraste de phase interférentielle, un œuf non fécondé. Il est particulièrement opaque en raison de sa forte teneur en vitellus répartie régulièrement. Après la pénétration du spermatozoïde, l'œuf se contracte légèrement. Le liquide périvitellin qui est expulsé a soulevé la membrane vitelline qui devient alors la membrane de fécondation. Le spermatozoïde a fécondé l'ovule. L'œuf, désormais, se segmente. La segmentation ressemble par de nombreux points à celle qui existe chez l'oursin. Néanmoins, les blastomères issus des divisions successives sont égaux entre eux et ils demeurent jusqu'à la fin de la segmentation, tout en diminuant de volume, le volume de l'œuf demeurant constant. À titre de comparaison, l'œuf oligolécite de l'oursin Psammechinus miliaris apparaît beaucoup plus transparent. Par ailleurs, la taille des blastomères en fin de segmentation varie suivant leur position par rapport au pôle animal ou au pôle végétatif. Au deuxième jour du développement, la blastula ciliée d'Asterina gibbosa montre, dans sa région centrale, une zone légèrement plus claire, qui correspondra à la cavité blastocélienne. Toujours à titre de comparaison, la cavité blastocélienne apparaît plus nettement chez l'oursin. Les cils sont, eux aussi, beaucoup plus visibles. Vers le troisième jour, faisant suite à une invagination, apparaît le blastopore. On note toujours la présence de la membrane de fécondation. Le blastopore de cet astéride n'est pas sans rappeler le bouchon vitellin que l'on rencontre chez les amphibiens. Sur une gastrula plus jeune, vue de profil, on peut voir par transparence l'amorce de l'archantéron. La gastrulation s'achève entre le troisième et le quatrième jour. La jeune larve s'étire. L'emplacement du blastopore se situe en haut et à gauche. À l'opposé de celui-ci s'amorcera le pied, ou lobe préoral, ou encore organe larvaire. Le blastopore s'oblitère, et il ne reste bientôt plus qu'une fente blastoporale bien visible sur cette image. Le corps de la future étoile de mer évoque à ce stade la forme d'une bosse. À l'opposé de la bosse, s'ébauche le pied. Un anus provisoire se différencie au niveau de la fente blastoporale. Nous voyons ici le côté gauche de la larve. L'organe larvaire ou pied s'allonge dans le sens antéro-postérieur. C'est par la partie antérieure de celui-ci que se fixera la larve sur son support par l'intermédiaire d'une papille adhésive. La papille adhésive se niche au fond d'une excavation du pied. En somme, la larve rampe sur sa face excavée et se fixe par la papille. Par ailleurs, une bouche provisoire s'est percée à la limite de la partie antérieure du pied et de la bosse. Au sixième jour, la larve possède un pied très développé. Elle est toujours vue ici du côté gauche et mesure alors un peu plus d'un millimètre. Sur ce même côté apparaissent au huitième jour cinq lobes qui sont les rudiments des bras. C'est une préfiguration de la jeune astéride et le début de la métamorphose. Un plus fort grossissement met bien en évidence ces cinq lobes, éléments de la symétrie rayonnée, peinte à radier. Nous sommes à 10 jours de vie larvaire. Les événements vont maintenant se précipiter. L'organe larvaire s'invagine en partie et surtout est histolysé. Quant à la bosse, elle acquiert une forme pentagonale. La bouche et l'œsophage larvaire s'atrophient. Les premiers pieds ambulacraires sont apparus sur la face orale qui correspond au côté gauche de la bosse. Ces pieds prennent, dès le 11e jour, une taille démesurée par rapport au reste de la larve. Il s'agit ici d'une vue orale, la bouche définitive se situant au centre. L'organe larvaire, en bas et à gauche, a encore régressé. Les ébauches orales et aborales sont réunies en un seul disque. L'anus se situe sur la face aborale. À proximité de celui-ci, le canal hydrophore marque l'apparition du complexe axial. Le canal hydrophore et l'organe axial en sont les principaux éléments. Au 12e jour, la jeune étoile de mer, ramassée sur elle-même, mesure 1 mm. L'extrême mobilité des pieds ambulacraires est un avant-signe de la vie active de l'étoile de mer. Les premières plaques apparaissent et constituent l'ébauche du futur squelette dont la composition est de nature calcique, fortement magnésienne. Se forment ainsi la plaque centrale et les 5 plaques basales périphériques, dont l'une correspond à la plaque madréporique. Une vue aborale au 14e jour montre que l'amorce des bras se précise de plus en plus et pourtant, à ce stade, leur forme évoque encore des moignons. Les taches plus sombres correspondent à des mamelons qui portent les premiers piquants. Voici un de ces premiers piquants, véritable dard, soutenu par le mamelon. Les piquants, les uns fixes, les autres mobiles, appartiennent au squelette superficiel qui se superpose au squelette profond correspondant aux différentes plaques dont nous avons parlé précédemment. La trame de calcite s'organise, mais les cristaux sont encore très dispersés. Le lobe préoral, au centre de l'image, a considérablement régressé. En 15 jours, le développement est pratiquement terminé. Et les 5 séquas digestifs sont bien visibles par transparence. Les transformations seront maintenant mineures pour conduire l'astéride à sa forme définitive. Cette astérina en élevage quintuplera de diamètre en un an, c'est-à-dire qu'elle mesurera 5 mm. À de nombreux égards, le développement larvaire d'Astérina gibbosa est exceptionnel. En effet, la plupart des autres astérides, dont Asterias rubens, dérive de larves appartenant à deux types, la bipinaria et la brachiolaria, qui sont des formes libres. Toutefois, quelques rares espèces, comme Henrycia sanguinolenta, vivipares et incubatrices, comme l'a montré SARS en 1846, et Echinaster sepositus, espèce ovipare, ont un développement qui se rapproche de celui d'Asterina gibbosa. L'étude du développement larvaire et de la métamorphose d'Asterina gibbosa est donc particulièrement facile à suivre, en raison du fait que, contrairement aux autres larves d'astérides, qui sont nageantes, les larves de cette espèce sont sédentaires. Cette particularité est liée à la haute teneur en vitellus des œufs, alors que ceux de la plupart des autres espèces sont oligolécitiques. La larve d'Asterina gibbosa, qui est une Brachiolaria modifiée, se nourrit sur ses réserves. Mais si Asterina gibbosa présente cette forme larvaire particulière, elle obéit néanmoins à la loi générale du développement des astérides.